Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes vendredi, on est très heureux de vous retrouver pour le commentaire de la paracha de la semaine par le grand rabbin Avraham Arlvey. Bonjour monsieur le grand rabbin.
Bonjour Jean.
Comment allez-vous ?
Très très bien.
Alors vous êtes vissé...
J'ai très faim.
Ah d'accord. Alors on va y aller vite alors parce que j'ai faim. Pour ce Shabbat, paracha Vaera, l'allumage des bougies, 16h38 et demain, la fin du Shabbat à partir de 17h51.
Jean, vous avez l'air d'avoir très froid.
Oui.
Vous êtes emmitouflé comme, oui. Comme un bibendum de Michelin, là.
C'est pas... Alors, pour vous dire que je me suis trompé la semaine dernière.
Ah, vous avez annoncé le mauvais Rosh Chodesh. Ouais.
Voilà. Et donc, c'était pas Adar Rishon, mais vous aurez.
À mon évidemment... avis, vous êtes impatient que Pourim arrive.
Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, c'est bien Rosh Chodesh, qu'on a fait hier. Shevat avec le 15 Shevat et la fête de Tu Bishvat. On va, comme chaque semaine, souhaiter un refroid chez les mains à tous nos malades et aux personnes isolées et aux personnes âgées. Monsieur le grand rabbin, sans plus tarder, le commentaire de la paracha.
Alors, notre résumé, hein, comme chaque semaine, Vaera, je le rappelle, nous sommes en plein cœur de l'intrigue. Une paracha, donc paracha de Shemot, qui nous a exposé déjà voilà, toute la problématique. C'est une nouvelle page de l'histoire du peuple d'Israël qui est en train de s'écrire. Un peuple qui n'en est d'ailleurs pas encore un. Hein. Je le rappelle, nous avons assisté aux prémices de l'esclavage et à la mission qui est confiée à Moshe Rabbeinu, après donc plus de 200 ans d'esclavage déjà, parce que c'est vrai qu'on passe très très vite finalement dans le texte, parfois on oublie que les choses prennent du temps, et lorsqu'on lit le texte, on a l'impression qu'on a immédiatement un sauveur qui est né, mais il y a un certain temps, et ce temps, il est quand même ici de deux siècles, où le peuple d'Israël va subir un esclavage extrêmement puissant et cynique de la part des Égyptiens, et... émerge donc ce fameux libérateur, Moshe Rabbeinu, Moshe qui va se voir confier cette mission. Ce que nous avons raconté dans la paracha de Shemot, et nous nous sommes arrêtés donc en plein cœur de l'intrigue, à un moment où eh bien, nous sommes à un point de bascule et où l'intervention de Moshe, et c'est pour ça qu'on est en plein suspense, l'intervention de Moshe qui aurait dû accélérer la libération, au contraire, a l'air d'avoir été un frein à cette libération, puisque Paro, plutôt que d'accéder à la demande de Moshe, hein, accompagné de son frère Aaron, va au contraire décider d'augmenter la charge de travail en décidant de ne plus fournir la paille, tout en demandant et en exigeant la même quantité de travail. Et donc nous avons laissé la paracha de la semaine dernière sur une intervention assez déconcertante de la part de Moshe, qui s'en prend à Dieu hein, directement, en lui demandant pourquoi est-ce qu'il agit de cette manière, pourquoi est-ce qu'il cause du tort au peuple d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu propose déjà un premier élément de réponse à la fin de la paracha de la semaine dernière. On s'était arrêté sur ce premier verset. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous voyez qu'on a commencé le chapitre 6. C'est de là qu'on voit que le découpage en chapitres n'est pas un découpage de tradition juive, puisque sinon on n'aurait pas coupé après le premier verset. On en reviendra, c'est intéressant. En tout cas, donc, il y a un premier verset donc, de ce sixième chapitre sur lequel s'achève la paracha de la semaine dernière, où Dieu va essayer un petit peu de calmer Moshe en lui disant « Tu n'as rien vu encore de ce qui va se passer, tu as l'impression que les choses sont en train d'aller de mal en pis, mais en réalité, c'est la libération qui est en train de se mettre en place. » Et notre paracha, à nous, va nous plonger au cœur de la mission. La mission, elle n'a pas vraiment commencé encore. Elle a été confiée à Moshe et à Aaron, mais elle va véritablement commencer dans notre paracha. Là, Dieu va s'adresser, c'est le début de la paracha, à Moshe pour le remettre un petit peu en place, hein, pour lui faire comprendre qu'il doit reprendre confiance un petit peu en Dieu, le laisser mener à bien, justement, cette mission de libération. Et nous allons surtout assister, et c'est on va dire la partie la plus célèbre de notre paracha, aux plaies, aux fameuses plaies d'Égypte, les sept premières en tout cas, il y a 10 plaies comme vous le savez, et ce sont donc les 7 premières plaies qui vont se dérouler tout au long de la paracha avec, on va dire, un schéma qui est presque toujours identique, c'est-à-dire un Moshe qui demande à Pharaon de le laisser sortir, une plaie, une menace d'une plaie, une plaie qui intervient devant la non-réaction de Paro, et puis systématiquement, une impression que Paro va céder pour finalement, à chaque fois après, s'endurcir, ou bien voir son cœur endurci volontairement par Dieu, et un refus, finalement, d'accéder à la demande de libération de Moshe Rabbeinu. Et nous terminerons donc cette paracha sur un énième refus de Paro à la fin de la 7e plaie, qui est celle de la grêle.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dès le premier mot de la paracha, qui dit « Vaïdaber », tout premier mot de Parasha, les commentateurs posent une question, en tout cas s'interrogent en disant que le thème Vaïdaber veut en général dire que les paroles qui suivent sont plutôt sévères, et c'est le cas.
Tout à fait. Rashi est le premier à intervenir, hein, et le premier Rashi de la Parasha nous dit Vaïdaber Elohim el Moshe, Diber ito mishpat al sheiksha ledaber. C'est-à-dire que Dieu va parler sévèrement à Moshe, il va le réprimander en quelque sorte. Al sheiksha ledaber velomar lama areota la amaze. Et c'est en contrepartie de ce que Moshe lui-même avait dit dans la paracha de la semaine dernière. Et puisque Moshe a eu des paroles sévères, entre guillemets, vis-à-vis de Dieu, eh bien Dieu va à son tour parler de manière sévère à Moshe Rabbeinu, en lui disant qu'il n'a pas compris. Et que...
C'est une remontrance, c'est un appel à avancer.
Ah non, c'est une remontrance, mais avec un appel à avancer. Ah. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans le même verset, alors il y a les commentateurs... s'interrogent eux-mêmes sur ce qui a poussé Rashi à expliquer les choses de cette manière. Est-ce que c'est le terme Vaïdaber ou est-ce que c'est le terme Elohim qui est juste après? En réalité, les deux sont complémentaires, puisque le mot Vaïdaber, vous l'avez dit vous-même, Jean, il y a deux manières de dire que Dieu a parlé, ou bien Vaïomer, ou bien Vaïdaber. Mm. Et on le voit, hein, c'est pas la première fois qu'on a ce conflit entre ces deux mots. Le mot Daber vient de Dibour. Dibour, c'est la chaîne cachée. Vaïomer est un langage,
caché,
au contraire, beaucoup plus
difficile.
Caché, dur. C'est une manière beaucoup plus dure et beaucoup plus sévère de s'adresser à une personne. Vaïomer, c'est une manière plus souple. Et ce qui est intéressant, c'est que là, dans le même verset, on a Vaïdaber et Vaïomer. Et pareil, on va retrouver deux noms de Dieu qui font référence à deux attributs différents. Un attribut, Elohim, qui est celui d'un Dieu dans sa position de juge, celui qui est la Midat Hadin, celui qui ne laisse rien passer. Et en même temps, on a le tétragramme qui est au contraire un Dieu de miséricorde.
Alors, c'est justement la question.
Alors, je termine, parce que dans le même verset, on a un conflit. Vaïdaber Elohim el Moshe, c'est un Dieu sévère, a priori, qui s'adresse à Moshe. Et dans le même verset, Vaïomer Elav Ani Hashem. C'est cette fois-ci un Dieu... plus miséricordieux qui parle et qui lui dit Ani Hashem. Et donc, à mon sens, Jean, Dieu s'adresse à Moshe de manière sévère, mais cette sévérité, elle est immédiatement tempérée par le Vaïomer Elav Ani Hashem, pour lui dire, mais tu sais, c'est un message. C'est ça ce qui est intéressant, Jean. C'est que dans ce verset, en réalité, on a la réponse déjà de Dieu. Avant même que Dieu ne délivre son message, juste dans la manière dont le verset présente les choses, on a déjà la réponse. Ce que Dieu est en train de dire à Moshe, c'est que le même Dieu qui peut parfois donner l'impression d'être un Dieu sévère et de faire des choses qui vont à l'encontre de l'intérêt de la personne, en réalité, c'est le même Dieu qui est miséricordieux et qui est en train de faire avancer l'histoire.
Alors justement, on le dit dans les commentaires, Dieu a différents noms. À quoi correspondent ces noms et combien Dieu a de noms?
Alors, il n'y a pas plusieurs dieux, Chas v'Shalom, bien sûr. C'est un même Dieu qui se présente, en réalité, sous plusieurs attributs. Il y a énormément de noms d'Akadosh Baruch Hu, de noms de Dieu que l'on peut croiser sous la Torah, d'autres qui ne sont pas forcément rapportés dans la Torah, mais qui représentent à chaque fois, bien sûr, les deux plus célèbres d'entre eux, ce sont Elohim ou bien le tétragramme. Il y a le nom aussi de Kelshakai, un Dieu qu'on traduit souvent par Dieu jaloux, et qui est Kelshakai, c'est une contraction de Mishamar Leolam Odai, c'est une contraction, hein. Shakai chez Amar Leolamodai, c'est celui qui a dit à son monde de s'arrêter, donc un dieu qui impose des limites et un cadre dans ce monde. Chaque nom correspond à une dimension d'Akadosh Baruch Hu, de sa manière de diriger le monde, des manières qui sont bien sûr complémentaires. Je rappelle un midrash extrêmement célèbre qui dit qu'au début, Dieu voulait créer le monde Alpi Midat Adin. Ce monde devait être régi uniquement par le din, par la rigueur, par la justice. Et que Dieu s'est rendu compte très rapidement que ce monde ne pouvait pas subsister de cette manière en étant régi uniquement par l'attribut du din, de la rigueur. Et c'est la raison pour laquelle il a décidé de le tempérer en y ajoutant Midat Arachamim, un attribut de miséricorde. Et nous avons donc un monde qui est un équilibre entre le din et la rahmanout. Et cet équilibre entre la justice et la miséricorde, eh bien, on le retrouve dans le premier verset de cette paracha où Dieu fait passer ce message justement à Moshe en lui disant que, il doit avoir une autre grille de lecture du monde et que même si parfois Dieu peut lui donner l'impression d'être sévère, comme je l'ai dit, d'agir contre les intérêts du clan Israël, du peuple d'Israël ou d'une manière plus générale de l'humanité, pas du tout. En réalité, c'est ce même Dieu qui, en même temps, de manière concomitante et parfois paradoxale, est en train de servir l'intérêt commun.
Alors, on l'a dit, Dieu envoie Moshe et Aaron voir le Pharaon, mais il y a une petite différence dans le début de cette paracha, c'est qu'il demande aux chefs de tribu de rejoindre Moshe Aaron, ce qui n'a pas été le cas au début. Est-ce que il y aurait une erreur, chas v'shalom, sur
alors,
le fait d'aller
vous faites référence à autre chose, faites référence à l'intercalation ici de la généalogie de Moshe Aaron, ce qui est différent. On parle pas, alors on va nous parler de Raché Bet Avotam, on va remonter jusqu'à Réhouven et faire toute la généalogie, etc., de Réhouven, et on va faire celle de Lévi, etc. Donc en fait, nous ne sommes pas, on n'est pas en train de parler de l'intervention ici. Il faut pas confondre avec ce qui s'est passé dans la paracha de la semaine dernière, où on a demandé à ce qu'on convoque Shivim Ish, 70 personnes parmi les sages du peuple d'Israël. Là, on est simplement en train de nous faire une généalogie, mais qui tombe de manière extrêmement surprenante, alors qu'on nous a déjà parlé de Moshe et d'Aaron, qu'on nous les a déjà présentés. On ne comprend pas pourquoi c'est seulement à ce moment-là qu'on va nous refaire toute la généalogie. Cette généalogie, on aurait dû normalement l'intercaler beaucoup plus tôt, au moment où on nous parle de la naissance de Moshe, de son émergence, ou au moment où même Dieu va s'adresser à lui pour la première fois. Or, c'est maintenant, alors qu'on est en plein milieu de l'histoire, qu'on décide tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, de nous parler de cela. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai un peu suggéré, je l'ai soufflé, la mission, elle commence maintenant. Même si Moshe est déjà intervenu une première fois, il a essuyé un refus, la mission, c'est maintenant qu'elle commence, c'est maintenant que les choses vont se mettre en place, c'est maintenant qu'il va commencer à y avoir finalement un petit peu d'action, que Paro va commencer à être ébranlé, et donc c'est à ce moment-là qu'il est nécessaire de rappeler pourquoi est-ce que c'est Moshe et Aaron qui ont été choisis, pas par hasard, et la généalogie sert aussi à ça, nous montrer, tu vois, Moshe n'est pas l'aîné, il y a tout un tas de paramètres qui interviennent et qui nous montrent que si Moshe a été choisi, c'est pour ses qualités. Voilà. On va nous dire que Moshe ne descend pas de nulle part, ça c'est important de le dire, l'histoire elle a un sens, elle a un cours, mais en même temps il n'y a pas de choix ici qui est arbitraire. Kadosh Baruch Hu a choisi Moshe parce que c'est quelqu'un qui avait les qualités humaines et bien sûr aussi les qualités spirituelles et nécessaires à mener sa mission à bien, tout comme l'a été aussi Aaron. Intellectuel sans doute aussi, mais on l'a vu déjà la semaine dernière, c'est surtout encore une fois pour ses qualités humaines que Moshe a été choisi, pour sa modestie, son humilité et son souci de l'autre. Moshe n'aurait jamais été choisi s'il n'avait pas un souci permanent du devenir de l'autre.
Alors Moïse donc hésite encore une fois, il dit à Dieu qu'il a un problème d'élocution.
Un argument qu'on connaît déjà.
Voilà,
qu'il a
mais
déjà
que Dieu aussi connaît évidemment. Et il lui propose d'avoir un porte-parole qui est Aaron.
Ce qui a déjà été signalé aussi la semaine dernière.
On a l'impression, on ne se rend pas compte que Aaron n'est pas qu'un porte-parole lambda, il a aussi un rôle long dans...
Aaron, c'est un grand frère. Et rappelez-vous la réaction de Moshe, qui a été là aussi, pas surprenante, bien au contraire, mais en tout cas extrêmement gênée. Lorsqu'on a fait comprendre à Moshe que c'est lui qui allait jouer les premiers rôles, la première réaction de Moshe, et Dieu va devoir le rassurer par rapport à cela, c'est de se dire, mais je ne peux pas prendre la place de mon frère, j'ai un frère qui est plus grand, c'est à lui que revient cette mission. Et Dieu va lui dire, mais t'inquiète pas, je lui ai aussi préparé une mission qui est une mission qui, comme vous l'avez dit, Jean, est bien plus qu'un accompagnant, est bien plus qu'un porte-parole, c'est quelqu'un qui sera véritablement ton soutien, qui marchera à tes côtés, être la voix de quelqu'un, Jean, c'est très...
C'est important cette filiation, grand frère, petit frère.
Bien évidemment, parce que Moshe a non seulement de l'admiration pour son grand frère, il a un respect immense pour lui, mais il incarne une certaine forme de modèle. Et Aaron, on le sait, Aaron était quelqu'un qui était pétri de qualité, on le verra tout au long du Sefer Shemot, mais également du Sefer Vaikra, lorsqu'on confiera à Aaron sa mission de devenir le premier Kohen Gadol. Ce n'est pas pour rien qu'Aaron a été choisi. Aaron est quelqu'un qui est amoureux du shalom, qui fait la paix entre les gens, qui est quelqu'un qui a là aussi des aspirations spirituelles extrêmement élevées, qui jouera un rôle déterminant aussi au moment de la faute du Egel Azav. Et donc Aaron, bien évidemment, n'est pas choisi pour rien. Il n'est pas choisi uniquement parce qu'il est le frère de Moshe, mais il est choisi pour propres qualités. Mmh. C'est important de le rappeler. On peut avoir l'impression que finalement, c'est un lot de consolation pour Aaron. Pas du tout. Si Aaron est choisi, ce n'est pas uniquement parce qu'il est le grand frère de Moshe Rabbeinu, mais c'est parce qu'en tant qu'Aaron et en tant que personne propre, il a d'énormes qualités et que ce sont ces qualités qui sont indispensables et nécessaires pour parler à Paro. Pour parler à Paro, on a besoin d'une parole qui porte, une parole qui soit crédible, une parole aussi qui puisse être reçue de manière peut-être aussi non agressive, même si les propos sont parfois un peu directifs, par Paro, et Aaron remplit parfaitement ce rôle.
Alors, ce qui m'a intéressé dans cette paracha, enfin, intéressant dans l'esprit, c'est qu'on parle pendant une petite partie de cette paracha de magie. On dit qu'il y a eu une sorte de compétition entre Moshe Aaron et les magiciens de Paro. Question, est-ce que la magie est proscrite?
Est-ce que vous aimez la magie, vous, Jean? Les spectacles de magie?
Il y a des trucs sympas, oui. Non?
C'est une grande discussion entre nos maîtres pour savoir qu'est-ce qui est interdit véritablement dans la magie, dans la sorcellerie. On sait qu'il y a plein de dimensions. Est-ce qu'on parle déjà d'une... Est-ce que l'homme aurait... C'est intéressant. Est-ce que l'homme a véritablement un pouvoir de sorcellerie, tel qu'on l'entend, c'est-à-dire véritablement d'intervenir sur la nature, ou est-ce qu'on n'est que dans l'illusionnisme ? L'illusionnisme, comme vous le savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de magiciens, dans les spectacles de magie, ce sont des illusionnistes, des prestidigitateurs, c'est-à-dire des gens qui, par certains effets, donnent l'impression d'eux. C'est ça l'illusionnisme, c'est donner l'impression de faire quelque chose, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un effet de style. Et c'est le principe. Aujourd'hui, un magicien va faire toute sa réputation et on va dire parfois tout son génie par son habileté, sa capacité justement à donner l'illusion de quelque chose, soit en absorbant tout simplement la conscience d'une personne ou son attention, en la détournant pour lui faire croire quelque chose, ou bien parce qu'avec sa rapidité d'action et d'exécution, là aussi, il peut faire illusion de la Torah. D'après la grande majorité de nos maîtres, ce qu'elle interdit, c'est la sorcellerie pure et dure, c'est-à-dire une capacité qui est que la Torah qualifie en tout cas d'effective et de possible, de pouvoir, par certaines actions et par certains codes, eh bien, véritablement changer certaines choses de la nature. Voilà, c'est ça ce qui serait interdit. Le Rambam, qui a une position très originale, Maïmonide, lui considère que pas du tout, c'est même l'illusionnisme déjà, qui est la prestidigitation, qui serait interdite. Alors, de cette grande discussion qui existe, découlera également la conséquence de savoir est-ce que dans l'action qui était réalisée par les magiciens de Pharaon, est-ce que c'était de la sorcellerie pure et dure? Est-ce que c'était véritablement en changeant les lois de la nature que les magiciens de Pharaon ont réussi à transformer un bâton en serpent? Ou est-ce que c'était par de l'illusion? Voilà, quoi qu'il en soit, bien sûr, le recours à ces méthodes donc est un recours interdit pour le Rambam. Donc, comme on l'a dit, l'illusion, déjà l'illusionnisme, c'est déjà quelque chose d'interdit parce que finalement le résultat serait un petit peu le même. C'est-à-dire donner ça peut être pour la personne l'impression de se prendre un petit peu finalement pour Dieu en voulant changer les lois naturelles qui ont été imposées dans ce monde.
Alors, on va parler maintenant d'un sujet important. C'est les plaies d'Égypte. D'emblée, il y a 7 plaies dans cette paracha et 3 dans l'autre. Je n'ai pas compris pourquoi on a coupé au milieu, pourquoi on n'a pas donné les 10 plaies d'un coup dans cette paracha. Pourquoi il y a une coupure entre 7 et 3 et est-ce que 7 et 3 ont une importance?
Alors c'est une excellente question et surtout vous parlez de 7 et 3. À la rigueur, on aurait coupé les plaies en 5 et 5. On aurait pu se dire on fait une pause au milieu, c'est équilibré. Mais là, effectivement, il y a 7 et 3. Or, on remarque dans ces plaies, il y a un cheminement qui est graduel. Alors faut-il le définir, bien évidemment. Mais dans ce cas-là, 5 et 5, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec les 3 dernières plaies par rapport aux 7 premières? Est-ce qu'il y a véritablement un changement? Alors oui, on verra déjà qu'à la fin de la 7e plaie, il se passe quelque chose qui déjà va déterminer et va poser déjà les conditions d'un changement réel déjà chez Paro. Il lui faudra encore 3 plaies pour prendre la décision finale, mais il y a déjà quelque chose qui arrive à la fin de la 7e plaie qui ne s'est pas produit avant. Déjà chez Paro, au niveau de la prise de conscience, au niveau de l'aveu qui va être le sien, on a quelque chose de nouveau qui ne s'est pas passé avant. Donc cela déjà peut-être justifie qu'il y ait une pause à ce moment-là, qu'on reprenne un petit peu nos esprits et qu'on enchaîne dans une nouvelle paracha sur les 3 dernières, sur les 3 dernières plaies. Mais pas simplement, on a d'autres réponses qui sont présentées par nos commentateurs. Et ce qu'on voit, par ailleurs, dans d'autres découpages similaires, où on a aussi 10, je ne veux pas faire de la cabale, parce que je ne suis pas quelqu'un de spécialement ésotérique, mais on voit quand même dans les fameux sphirotes, les fameux comptes kabbalistiques, où on a 10 sphirotes, 10 comptes, on voit que là aussi, il y a un découpage en 7 et 3. Donc c'est quelque chose que l'on peut retrouver par ailleurs. On est sur un modèle, en tout cas, un modèle qui existe. Et même au niveau des fameuses Mahamarot, c'est que certains considèrent qu'il y a en réalité un parallélisme assez troublant entre les 10 plaies d'Égypte et les 10 paroles par lesquelles le monde a été construit. Et on pourrait aussi faire un parallèle avec les 10, la Aseret HaDibrot, les 10 paroles que Dieu va donner au Har Sinaï. Eh bien, il y a aussi ce découpage en 7 et 3, c'est-à-dire trois paroles qui seraient complètement inaccessibles pour l'homme au niveau tellement elles recèlent en elles des secrets et des choses d'une complexité qui dépassent l'homme, alors que les 7 suivantes, elles, seraient déjà beaucoup plus accessibles. Et donc on aurait un petit peu la même chose ici avec ce découpage un petit peu symétrique. Cette fois-ci, on n'a pas les 3 et 7, on a 7 et 3, donc on a un peu une sorte de symétrie, et avec peut-être quelque chose au niveau des 3 dernières plaies d'extrêmement élevé et qui nous dépasserait un petit peu. On va voir que les 3 dernières plaies sont vraiment d'un tout autre ordre et elles forment en tout cas quelque chose au niveau d'une certaine dimension, nous dépasse complètement.
Le sang, les grenouilles, les poux, les bêtes sauvages, la peste et les ulcères, enfin la grève.
La grève aussi. Les gilets jaunes, voilà. on peut tout mettre à l'intérieur de cette page.
Il y a une gradation dans ces différentes...
Il y a une graduation, Jean. Il y a une graduation déjà sur les différents éléments naturels qui sont, alors je vous dis des choses assez classiques, mais qui sont exposés ici. Donc d'abord l'eau, et c'était bien sûr la volonté, parce que la volonté c'est de faire passer un message. Et je vous rappelle toujours un message double. Bien sûr à la fois un message à Paro, parce que c'est lui qu'on cherche à convaincre ici pour libérer les Bnei Israël, et Hachem ne veut pas que libérer les Bnei Israël, il veut aussi éduquer Paro. Il veut éduquer Paro, il veut éduquer l'Égypte, et il veut ramener sur le devant de la scène son omnipotence, et que Paro intègre justement cette existence d'Akadosh Baruch Hu, son omnipotence.
Peuple.
Mais aussi, non, Paro et son peuple, mais également, par ailleurs, il s'agit d'éduquer les Bnei Israël qui ont perdu toute forme d'éducation. Rappelez-vous qu'on assiste à une certaine forme d'assimilation qui est exacerbée par l'esclavage, puisque forcément l'esclavage ne laisse plus la possibilité aux Bnei Israël de pouvoir réfléchir, de pouvoir étudier spirituellement, à part la tribu de Lévi qui n'était pas concernée par l'esclavage, mais toutes les autres tribus, eh bien elles sont complètement submergées par cet esclavage et elles n'ont pas la capacité à prendre le temps pour réfléchir. Et donc, il faut rééduquer aussi. Il faut rééduquer en même temps les Bnei Israël. Donc, au travers de ces plaies, on éduque à la fois Paro, mais on éduque aussi les Bnei Israël. Et chaque plaie qui va frapper les Égyptiens, eh bien, c'est en même temps, face aux yeux ébahis des enfants d'Israël qui sont épargnés par cette plaie, c'est aussi une prise de conscience. Donc, on fait d'une pierre deux coups ici. Et donc, on va y aller de manière graduelle, effectivement. Dans un premier temps, les plaies vont toucher l'élément naturel de l'eau. Ce sont tous les éléments qui vont être touchés du monde. On commence par ce qu'il y a de plus bas, l'eau.
On est sous la terre,
on est en dessous de la terre avec l'eau, le Nil transformé en sang, les grenouilles qui sortent du Nil, les poux également qui sont en lien avec le Yéor. Et puis dans un deuxième temps, c'est la terre qui est touchée. Les bêtes sauvages sont sur la terre, la peste, elle touche sur la terre, les ulcères, tout ça, c'est sur la terre. Et puis dans un troisième temps, c'est le ciel, c'est l'air. Donc là, vous voyez, on monte. Ce sont ces éléments qui vont être touchés. On pense bien sûr à la grêle, mais également les sauterelles, l'obscurité, bien évidemment, et Makat Bechorot, Ani Velo Malach, ou c'est Akadosh Baruch Hu, en personne, Bichvodo ou Beatzmo, si on peut s'exprimer de cette manière, qui va venir frapper les premiers-nés.
Alors, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est qu'on dit dans le texte que...
Je vous trouve très étonné aujourd'hui.
Oui. Non, c'est qu'on dit que Dieu a raffermi le cœur de Pharaon. Pourquoi ? Parce que à la rigueur, s'il aurait ouvert le cœur de Pharaon, les Hébreux seraient partis, on aurait réglé le problème. Pourquoi est-ce que Dieu a décidé de raffermir le cœur plutôt que de l'ouvrir ?
Alors, on est toujours, bien sûr, c'est une question existentielle, c'est la question, peut-être la question existentielle de toutes ces trois parachiotes de Shemot, Vaïra et Bo, même si c'est on n'a pas vu encore cette action de raffermissement, comme vous l'avez dit, et d'endurcissement du cœur de Pharaon dans la paracha de Shemot. Mais
on
peut se demander pourquoi est-ce que Dieu va intervenir pour altérer en quelque sorte le libre arbitre, puisque tout se joue avec le libre arbitre. Si Pharaon n'est plus en mesure de pouvoir prendre ses propres décisions, alors dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut l'accuser, comment est-ce qu'on peut le rendre coupable? Et puis on a l'impression, comme vous l'avez dit, que Dieu finalement est contre-productif dans cette action, parce qu'on aurait un pharaon qui aurait peut-être cédé plus rapidement si Dieu n'avait pas endurci son cœur, et donc on aurait mis fin plus rapidement à ce calvaire. Alors premièrement, je vous dis, ces 10 plaies, elles sont nécessaires. Il y a une volonté de Dieu que ces 10 plaies puissent se réaliser, pour que ces 10 plaies puissent se réaliser, puisqu'il y a une dimension éducative, pédagogique ici.
Si Pharaon aurait laissé le peuple partir,
on ne serait pas allé au terme peut-être des plaies. Mais il y a surtout une deuxième chose que Dieu ne veut pas, c'est que Paro ne cède sous la pression, qu'il ne cède pas parce qu'il a eu cette capacité à reconnaître la puissance d'Akadosh Baruch Hu, mais qu'il cède simplement parce qu'il souffre. Voilà, lorsqu'on souffre, on prend des décisions, mais qui, des décisions qui ne sont pas forcément réfléchies, des décisions qui sont tout simplement liées à cette souffrance. Il y a un côté ici émotionnel qui intervient. C'est cette dimension émotionnelle qui prend le dessus sur l'intellect. Or, nous, on veut un paro qui intellectuellement et qui, au niveau de son corps, justement, soit capable de faire preuve de cette reconnaissance. Donner la possibilité à un paro, bien sûr, en n'altérant pas ici son libre arbitre, de libérer les Bnei Israël, mais uniquement parce qu'il se sent menacé, là, c'est passer à côté du message, qui est celui, au contraire, d'un paro qui doit prendre conscience de l'enjeu, il doit prendre conscience des choses. Et c'est finalement fort de cette conscience que paro doit intervenir.
C'est le Dieu qui l'oblige.
Lorsque Paro prendra la véritable décision alors que son cœur a été endurci, là on saura que Paro a pris sa décision véritablement parce qu'il a reconnu l'omnipotence d'Akadosh Baruch Hu. Pas parce qu'il souffre, pas parce qu'il a envie que ça s'arrête, mais parce que véritablement il a reconnu Mikamocha Ba'elim Hashem, qui est grand comme toi, Akadosh Baruch Hu.
Alors,
qui est fort comme toi.
Quand on lit cette paracha, on voit qu'il y a une différence entre les 6 premières plaies, certaines, c'est 10 versets, 15 versets, on voit que la grêle, c'est pratiquement une trentaine de versets. Quelle importance a peut-être la grêle par rapport encore aux autres plaies?
Alors, on est dans un tournant. Déjà, on a dit que c'est la première
plaie
du ciel. Déjà, donc ça, c'est effectivement intéressant. Et puis d'ailleurs, même dans le découpage de Rabbi Yehuda, vous savez, ce fameux découpage qu'on lit au moment de la Gada, où justement, on découpe les plaies en 3 catégories. Be'achav, c'est le dernier groupe avec ses 4 plaies qui forment le dernier groupe. C'est la première plaie du ciel. Donc forcément, là, on passe dans une dimension, on n'est plus dans la dimension terrestre. On est dans une dimension qui est véritable. Et on va voir que chaque groupe de plaies a son propre objectif. C'est ça ce qui est intéressant. Là, je ne vais pas trop rentrer maintenant dans les détails. On n'a plus le temps. Mais chaque groupe de plaies, je vous invite tous à approfondir ces questions que l'on traite ici même à la radio, et surtout que ce sont des questions qui serviront pour Pessah, donc c'est intéressant, elles ne serviront pas simplement pour cette semaine, c'est l'intérêt de ces sidrot, c'est que tout ce qu'on apprend maintenant, on peut l'utiliser toute l'année, mais plus particulièrement même pour briller à la table du Seder. Donc prenez note et approfondissez, et regardez quel était l'objectif au niveau de la compréhension finalement de l'existence de Dieu, de son unicité, de chacune des séries de plaies. Barad, effectivement, est la première de cette troisième série, la première plaie de cette troisième série de plaies, et donc c'est la raison pour laquelle le texte va développer un petit peu plus en longueur la manière dont va se produire cette plaie, et surtout les effets que cette maca va avoir sur Paro, où on commence à comprendre et à sentir que les choses ne sont plus pareilles, que même si Paro finit à la fin, encore une fois, par voir son cœur s'endurcir, Il y a une brèche qui s'est créée et on approche véritablement de la sortie d'Égypte.
Un mot, encore vraiment une minute, sur la paracha de la semaine prochaine, qui va là, effectivement, vivre un vrai bouleversement. Pourquoi, justement, on l'a remarqué, on vous l'avait dit, tous les parachas sont un peu coupés au milieu. C'est pour avoir l'attention du peuple juif, ou alors cette séparation a été faite un peu au hasard.
Alors, bien sûr, il y a une volonté de maintenir aussi en haleine qui est importante pour le suspense. Là, pour celle qui sépare Vaïra de Beau, on l'a expliqué, on a expliqué la raison et pourquoi est-ce qu'il y a ces 7 et ces trois sidrotes. On peut s'amuser à faire entre guillemets ce jeu pour les différentes sidrotes. C'est pas toujours facile, je vous l'avoue, surtout que là nous sommes dans des sidrotes un petit peu d'histoire où on va narrer l'histoire. Ce sera pas forcément le cas dans le Sefer de Vaïkra, où là on sera dans un livre qui est un livre de législation, et donc là où il a fallu aussi trancher pourquoi est-ce qu'on s'arrête plus là que là, alors qu'on est en train de nous exposer des lois. Mais c'est un travail très très intéressant, et si vous voulez on pourra le faire lors des prochaines
beaucoup d'actualité dans la Sidra. Monsieur Grand, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Bon voyage. Je crois que vous partez cette semaine, on ne dira pas où et pourquoi. Voilà, je garde un petit secret. Merci à Thomas pour la gestion technique. Merci à vous. Shabbat Shalom, encore un petit mot. Je voudrais dédier cette émission, je ne l'ai pas fait, au souvenir de Rivka Bat Shimon, qui n'est autre que ma maman. Elle fait les 11 mois cette semaine, donc je voulais lui dédier cette émission à sa mémoire. Merci beaucoup. Shabbat Shalom.
Kan je tussen je de lucht preparen voor Shabbos?